Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, nous sommes débordants d'énergie ce matin, bien sûr, et pour vous servir. Merci de nous choisir. À partir de ce lundi, Lomé accueille la célébration de la première journée de l'intelligence artificielle africaine, une technologie qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés. Le journal Méga Info, abordant le sujet, précise que l'intelligence artificielle est une approche centrée sur l'humain et les besoins fondamentaux des populations, mais aussi des solutions frugale et adaptive, fonctionnant même avec des infrastructures limitées. Nous aborderons le sujet dans cette émission. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans les kiosques. Merci de nous choisir dans cette émission de ce lundi 3 mars 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Akuta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi. L'équipe, alors de lundi, se met déjà en place. Jacques Diakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Je voudrais présenter mes excuses pour le lundi passé. J'ai fait un faux bond également aux auditeurs auditrices. Je voulais m'en excuser et saluer tous nos auditeurs auditrices, comme d'habitude ceux qui sont sur les lits des hôpitaux, qui sont en train de nous écouter actuellement. Certainement que certains sont dans leur bureau. Je voudrais saluer mon ami Chakura quelque part qui est en train de nous écouter. Pascal, je voulais revenir sur un sujet concernant chez moi, c'est-à-dire Dapaon. J'étais au cœur d'une situation par rapport à l'eau dans cette localité. Je voudrais sincèrement inviter les autorités, peut-être les premiers responsables, surtout le ministre de l'eau, parce qu'il y a une situation difficile actuellement que les populations de la savane plus précisément Dapaon, sont en train de vivre. Sûrement que les gens ont vu cette image un peu sur les réseaux sociaux où on distribue de l'eau à travers les sapeurs-pompiers. Je crois que ce n'est pas du tout une bonne image pour notre pays. Je voudrais sincèrement inviter les autorités parce que vous savez, l'eau, c'est la vie, comme on l'a toujours si bien dit Pascal. Et comme je l'ai dit tout le temps, moi je préfère avoir de l'eau que de l'électricité. C'est vrai que Gorson me dira que sans électricité, on ne peut pas avoir l'eau parce qu'avec les forages. Mais il est vrai que, Pascal, il faudrait que les autorités intensifient le dessert effectivement l'eau potable pour nos populations. C'est vrai que déjà même dans la capitale, à Lomé, on me dira que certains quartiers n'ont pas d'eau. Pourquoi aller parler jusqu'à Dapaon? Il y a un adage en Évêque qui dit que la partie qui se fait mal, c'est la partie où on gratte. C'est la localité dont je viens, c'est ça qui fait un peu mal. Et je voudrais sincèrement inviter une fois encore les autorités à se pencher sur le problème d'eau dans cette localité. Parce que ça fait un peu mal. Parce
d'accord,
que,
ça fait un peu mal. Merci. Je te rassure quand même que tes excuses ont été acceptées et acceptées par moi et aussi par les auditeurs.
Et mon ami personnel.
Et justement, et par ton ami personnel qui est en studio avec nous, Gonson Ketomania, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'allais dire Pépé, bonjour.
Bonjour mon fils. Je saisis l'occasion pour saluer nos lecteurs, les auditeurs de Canal FM. Et c'est bizarre, s'agissant de l'absence de Jacques la dernière fois, si ça peut être répétitif, ce serait tant mieux pour l'opposition. En ce sens que...
Attends, comment ça?
Nous avons été assez nourris. On n'était qu'un binôme, mais c'était assez rempli. Les gens ne se sont pas ennuyés. Ils ne se sont même pas rendus compte que Jacques n'était pas là.
Mais tu vas pas oublier quand même que c'est ton ami sincère préféré.
Qui aime bien, châtie bien. Tu me le concèdes.
Mais tu vas pas demander son absence quand même.
Sur ce point, je le rejoins. Je veux pas me réjouir de la situation qui se passe actuellement dans la ville de Dapan. Mais je me dis, ah, quelque chose de malheur est bon. En ce sens que dans notre parution du jour, nous avons justement parlé d'un village de Dapan. Plus précisément, Sidiki. Où on a eu à décaisser près de 150 millions d'euros pour 150 millions de francs CFA pour faire une digue afin de pourvoir les populations en eau. Mais Pascal, c'est le soir du jour de l'inauguration, justement, une pluie s'est abattue et la digue a cédé.
Comment ça?
Comment ça? Si tu es intéressé, Liberté t'attend.
D'accord. J'irai vers Liberté.
Il faut aller vers Liberté pour comprendre que ce n'est pas seulement la ville de Dapan, mais d'autres villages de Dapan. Et si on veut se pencher sur le problème concernant la ville, il serait bien que les autres villages aussi qui souffrent de cette source de vie soient aussi bénéficiaires. C'est important.
D'accord, c'est important.
Je n'ai pas besoin d'être de la localité, mais Dapan fait partie du Togo aussi.
Ah oui, justement. Dapan fait partie du Togo et comme le dira l'autre, tout le Togo fait partie également alors de son bastion. Donc, il est très important quand même, puisque nous avons posé entre-temps la question à un homme politique où on lui demandait où se trouve concrètement alors son bastion sur le Togo. Et il nous disait que c'est tout le Togo, donc voilà. On comprend très bien. Nous sommes avec certains d'autres confrères aussi. Confrères, puisque l'occasion fait le larron. L'Agence togolaise de presse célèbre ses 50 ans d'existence. 50 ans d'existence, je pense que c'est à célébrer. Et donc, ce mercredi 5 mars, ce serait bien sûr célébré. Et nous sommes avec les responsables alors de ATOP en studio avec nous. Il y a monsieur Yebi Kokouvi Adé Yemi. Monsieur Yebi, bonjour.
Alors, bonjour, cher ami Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je peux rendre grâce à Dieu pour ces merveilles.
D'accord, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'ATOP, l'agence togolaise de presse, et vous êtes accompagné alors de monsieur Tankoukou et Deka Ignace. Monsieur Tankoukou, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, nous rendons grâce à Dieu.
Vous êtes rédacteur en chef à l'ATOP, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, je le disais tout de suite, que l'ATOP célèbre, ou l'Agence togolaise de presse célèbre 50 ans d'existence. D'abord, monsieur le directeur, comment les activités de cette célébration se préparent?
Alors, Pascal, une fois encore, merci pour cette heureuse occasion que vous nous offrez ce matin, en fait qu'ensemble nous puissions parler de l'Agence togolaise de presse. C'est vrai, les activités de ces comptes, nous avons lancé les activités le 10 janvier dernier à Nero, au cours donc d'une cérémonie de lancement, où nous avons animé une table ronde autour donc du thème du jubilé, qui est la top dans le paysage médiatique togolais, hier, aujourd'hui et demain. ce fut une occasion pour nous donc de faire le parcours, et de faire un bilan et de se projeter vers l'avenir et de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir revoir le travail que nous sommes en train de faire tout en n'ayant l'esprit au fait que nous avons des défis à relever. Voilà un peu donc ce que nous avons fait donc le 10 janvier dernier. Alors après donc ce lancement, nous avons réalisé un film institutionnel sur la TOP que nous allons diffuser donc le jour J, le 5 mars. Nous avons également fait des activités sportives, Maintenant le 5 mars, alors il y aura une journée porte ouverte à l'agence Golais de presse au cours donc de laquelle nous allons faire une exposition photo. Alors, primer les agents de l'agence togolaise de presse, les retraités et également ceux qui sont en fonction. Une question pour nous quand même donc de leur remercier pour le travail qu'ils ont fait, ceux qui sont partis à la retraite et également ceux qui sont là pour le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà un peu donc le programme qui est donc inscrit à l'ordre du jour.
C'est sur un geste de reconnaissance, bien sûr.
Oui, très bien.
D'accord. Alors, voilà. Monsieur Tankroukou, oui, avec une pluralité d'organes de presse dans le pays, quelle est l'importance d'une agence de presse dans le paysage médiatique national?
Merci pour la question. Des fois, les gens confondent l'agence et le quotidien national. L'agence couvre tout le pays. Et nous sommes sur les lieux et nous vivons les événements que nous couvrons et que nous diffusons. Au moins, il y a une pluralité d'organes, mais il y a la crédibilité que l'agence togolaise garde jusqu'à présent.
Et c'est quoi cette crédibilité?
La crédibilité, c'est que nous, on n'est pas tellement exposés
aux fake news.
Parce que ce que nous disons, toujours, ça a été vérifié. Puisque nous avons l'avantage d'être, au lieu, bon, on dit organe média d'État, mais on devait être un média public. Mais puisque tout ce qu'ils font à l'intérieur du pays, c'est l'agence qui est reconnue comme les gens le disent souvent, le ministère de la communication à l'intérieur du pays. Donc, quand il y a un événement, les gens vont vers l'agence, le correspondant de l'agence, pour venir couvrir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, au moins ça, puisque aujourd'hui, vous allez constater que tout le monde est journaliste. Avec les réseaux sociaux, les gens...
On parle plus des journalistes citoyens.
Oui. Donc, je dis qu'il y a une concurrence. Quand je dis que tout le monde est journaliste, c'est que les gens envoient des informations qui ne sont pas vérifiées. Mais au moins, quand il s'agit d'une dépêche de la TOF, les gens, au moins, ils ont cette confiance en nous que nous ne pouvons pas les tromper. Puisque depuis la création de l'agence togolaise de presse, les tout jeunes ne savaient pas le rôle que l'agence jouait. Sinon, nous, quand on était élèves, c'est la TOP qu'on confondait au ministère de la communication. Donc, au moins, cette confiance que les gens ont en nous, on arrive au moins à le préserver.
D'accord. Mais c'est vrai que vous avez touché ce distinguo-là que nous devons mettre entre la TOP et aussi le quotidien national. Mais c'est quoi cette différence?
Oui, l'agence. L'agence, comme on le dit vulgairement, c'est la banque de données de la communication. Puisque nous écrivons pour les autres organes. Donc, ils viennent chercher les dépêches, nous, qu'ils peuvent habiller avant de le publier. Bon. Alors, mais nous faisons tout. Parce que quand vous prenez nos dépêches, vous pouvez les publier en l'état. Alors que le quotidien national, c'est le journal de l'État qui publie les informations qu'ils couvrent eux-mêmes. Donc, en principe, tu ne peux pas reprendre une dépêche du quotidien pour publié, mais c'est les dépêches de la TOP au niveau national qui servent aux autres organes.
D'accord. Ouais. Oui, monsieur Eli, aujourd'hui, si il vous est donné de faire un bilan des 50 ans de l'agence, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est vrai que pour parler alors des 50 ans, peut-être que toute cette émission, le temps réservé à cette émission ne va pas suffire. Mais si vous avez quelque chose à dire sur le bilan, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Alors, Merci beaucoup, cher Pascal. Alors, merci. Je dirais que le bilan, il est plutôt reluisant. Hein. Le bilan, il est plutôt reluisant dans la mesure où, pour faire un petit rappel, c'était le 5 mars 1975 que, déjà dans un esprit plutôt visionnaire, le chef de l'État, le feu général Yassine Dieya Dema, a donc créé donc, l'Agence Togolaise de Presse. Pour, donc, à l'époque, la TOP avait pour mission la collecte, le traitement et la diffusion de nouvelles provenant donc de l'intérieur du pays, dans les préfectures, comme venait donc de le dire tout à l'heure l'agence, le rédacteur en chef. Oui. Alors, au fil donc des années, des décennies, la TOP s'est plutôt adaptée aujourd'hui, au numérique aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui, la principale vitrine de l'agence Togolaise de Presse, c'est son site internet aujourd'hui. Donc, nous diffusons les informations à temps réel donc sur ce site internet. Alors, par rapport donc à cette évolution du numérique, on s'est plutôt adapté aujourd'hui. Nous utilisons également les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont Facebook, Twitter aujourd'hui, aujourd'hui X. Alors, ces canaux de diffusion nous permettent aujourd'hui alors, de diffuser ces informations, nos informations, et tout cela à temps réel. Alors, en termes de bilan, je dirais au fait que le bilan il est plutôt reluisant. La TOP essaie de se mettre à jour par rapport à toute cette évolution.
Alors, monsieur le directeur, c'est quoi les défis aujourd'hui auxquels l'agence est confrontée?
Alors, merci encore, merci à cette question. Alors, aujourd'hui, comme tous les autres organes aujourd'hui, la TOP aujourd'hui fait face à beaucoup de défis, qu'on le veuille ou non. Alors, ces défis sont essentiellement sur le plan numérique aujourd'hui. Une agence de presse aujourd'hui doit pouvoir être à jour, nous devons être à la page. Alors, être aujourd'hui une agence plutôt de référence. Alors, quand on parle de défis, c'est de pouvoir relever aujourd'hui ces défis du numérique. Alors, ces défis en termes de formation, donc du personnel au fait d'aujourd'hui, ces défis en termes de moyens, je parle par exemple de moyens, sont les ordinateurs aujourd'hui, les appareils photo numériques, les biens matériels, pouvoir faire des photos de qualité. Alors, ce sont également de la logistique pour permettre à nos correspondants qui sont à l'intérieur du pays de se déplacer d'une zone A vers une zone B. Alors, voilà un peu donc, ces défis. Donc, il y a également ces défis de manque de personnel que nous devons également relever aujourd'hui. Alors, c'est d'une manière générale, c'est quelques défis donc, que nous pouvons quand même relever aujourd'hui.
D'accord. Monsieur Pangrogo, c'est vrai qu'entre-temps, l'agence a lancé, hein, et bientôt 3 ans d'ailleurs, un projet de modélisation. Alors, qu'en est-il exactement alors de ce projet ambitieux? Qu'est-ce qu'on peut garder alors de ce projet?
Ah oui, le projet, puisque il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans ce projet, mais pour le moment, nous manquons de financement pour les réaliser. Mais nous avons revu notre site d'information. Et vous-même, vous allez constater qu'aujourd'hui, nous passons les informations en temps réel, alors qu'avant, on les accumulait pour les mettre dans un bulletin d'information. Outre que nous les passons en temps réel, tout ce que nous publions sur le site, nous les récupérons pour constituer maintenant le bulletin d'information. Donc, si vous allez sur le site, vous allez voir que nous avons les bulletins quotidiens. Souvent, les gens vont sur le site, ils constatent seulement que les dépêches que nous publions régulièrement, mais ils oublient de voir le contenu du bulletin. Puisque dans le bulletin, non seulement il y a les dépêches, nous avons aussi des articles de fond que nous publions. Et ces articles de fond, ce sont les productions maison qui diffèrent des dépêches qui proviennent des manifestations que les gens organisent et nous sollicitent. Donc, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas de financement pour réaliser tout ce projet.
Donc, quand vous dites que vous n'avez pas de financement, on pourra dire, mais qu'est-ce que l'État fait alors?
Bon, pour ça, je laisse... Okay,
d'accord, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je viens de le dire, nous sommes dans un monde numérique aujourd'hui et nous devons nous adapter. Et il faut beaucoup de moyens pour s'adapter donc, à cette évolution. Alors, il y a de cela trois ans, nous avons lancé un projet de modélisation de la jambe qui avait plusieurs axes. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, nous avons nous avons refondu donc notre site internet. Nous avons même créé donc un nouveau logo de l'Agence togolaise de presse, revoir même la charte graphique de l'Agence togolaise de presse.
Okay.
C'est une activité qui a été réalisée plutôt à 100% avec donc le soutien donc du gouvernement, donc à travers donc le ministère de la Communication et des Médias. Donc c'est le lieu aujourd'hui donc de remercier les premières autorités de notre ministère pour la guidance permanente dont nous bénéficions. Alors, en plus donc de cette refonte du site internet et de la charte graphique, alors nous avons également équipé donc le personnel de Lomé jusqu'à Sékaté en matériel informatique, appareil photo. C'est vrai que le nombre n'était pas suffisant, mais nous avons quand même équipé certains centres des préfectures, certains centres et bureaux de matériel donc informatique. Nous avons dans le projet prévu former également le personnel, mettre à leur disposition les moyens de transport. Alors, comme je viens de le dire, c'est vrai, comme c'est réalisé dans ce projet est plutôt coûteux, l'État a fait sa part, mais comme on le dit, Rome n'a pas été inventé en un seul jour. Donc, c'est tout un processus. Alors, nous sommes en train de réaliser donc ce projet, et là, on espère que d'ici là, avec le soutien donc, du gouvernement, nous allons pouvoir donc réaliser donc ce projet à 100%.
D'accord. Alors, projetons-nous dans la journée du 5. Comment ça va se passer, la célébration apothéose?
Alors, monsieur le directeur. Alors, merci également à vous. C'est tout, comme je viens de le dire au départ, c'est tout un plaisir pour moi d'être ici sur Canal FM pour parler donc de l'Agence togolaise de presse. Alors je suis tenté de ne pas répondre à cette question.
Pourquoi?
Sinon, répondre à cette question, c'est dévoiler au fait tout ce que nous allons faire le 5 mars. Alors, mais je vais quand même dévoiler un peu ce que le programme qui est inscrit, que nous allons exécuter ce jour-là. Alors, ce jour, comme je viens tantôt, nous avons réalisé un film institutionnel. Donc nous allons projeter donc le film institutionnel. Nous allons faire une journée porte ouverte. Donc, je ne porte pas. Il y aura une exposition photo, une exposition des équipements que nous avons utilisés par le passé. Pour nous, c'est pour nous une occasion de revisiter donc l'agence dans le passé, pour voir les gens qui ont travaillé pour l'agence et le travail qu'ils ont fait. Alors, nous allons également primer, je viens de le dire, primer donc les retraités et les agents également qui sont en fonction. Voilà un peu d'une manière ramassée alors les activités qui sont inscrites donc à l'heure du jour.
On sait que pratiquement dans toutes les régions du pays, l'agence est installée. Mais des fois, il arrive même d'ailleurs quand nous allons à l'intérieur du pays de constater quand même que soit l'agence est totalement réduite dans une pièce et on n'arrive même pas à voir l'agence dans toute sa splendeur. Mais finalement, qu'est-ce que vous faites concrètement pour cela? Puisque c'est 50 ans, c'est déjà quelque chose et il faudrait quand même que l'image de l'agence aussi soit réalisante à l'extérieur. Oui, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous faites pour cela? C'est vrai qu'on parlerait alors du gouvernement ou de l'État qui doit apporter aussi les moyens.
Alors, merci beaucoup. C'est vrai, le gouvernement fait déjà assez. Alors, c'est en cela, au fait, que nous avons pour ambition de développer à l'Agence togolaise de presse un modèle économique. Un modèle économique qui nous permettra donc d'avoir des ressources additionnelles, des ressources extérieures, et de ne pas forcément attendre le gouvernement. Alors donc, ce modèle économique nous permettra donc de financer nos projets, dont par exemple la construction donc des bâtiments qui vont habiter dans l'Agence togolaise de presse. Alors donc, c'est un peu cela. Alors je vous dis, l'État est en train de faire sa part, et nous également à l'Agence togolaise de presse, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on fait compléter les efforts que l'État est en train de faire.
D'accord. Monsieur Tankoukou, finalement, nous sommes à la fin alors de cet entretien. Si vous avez un mot de la fin, qu'est-ce que vous allez dire?
Ouais, merci. Je voudrais rappeler aux autorités locales, surtout que nos correspondants sont à l'intérieur, qu'il faut qu'ils pensent au moins au déplacement de nos correspondants. Ils n'ont que des motos. Parfois, vous voyez que le correspondant parcourt 45 km pour aller couvrir un événement. Et au retour, ça fait combien de temps? Ça fait 90 km. Donc, alors qu'il doit nécessairement rendre son papier, vous voyez ce qui fait que nos papiers dorment un peu. Ou soit, il finit son papier et il n'y a pas de connexion. Donc, au moins pour le déplacement, les autorités peuvent réserver une place aux journalistes, pour qu'ensemble, qu'il puisse aller sur le terrain et revenir et rendre, faire vite son papier et l'envoyer pour la publication.
D'accord.
Plus il traîne, et le papier aussi va traîner.
D'accord. Ok. Jacques a une question pour vous, Jacques.
Non, pas une question. Moi, je voudrais plutôt inviter nos confrères de l'ATOP à être courageux dans leur l'exposé de leurs demandes, parce qu'à un moment, ils disent que l'État arrive à les soutenir. À un moment, ils disent encore qu'ils ont besoin du soutien. Je crois que, bon, comme c'est des médias d'État, c'est un peu difficile pour eux de dire certaines choses sur une radio privée. Mais ce que nous ressentons, c'est qu'ils ont besoin d'un appui. Donc, il faudrait effectivement que l'État puisse vraiment les appuyer. Hein, parce que...
Et donc, vous avez décidé de le dire en termes clairs, à la place.
Non, mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Si vous êtes malade, dites que vous êtes malade. Là, on peut vous aider à vous soigner. Mais si vous êtes semblant d'être malade, on ne peut pas diagnostiquer le mal dont vous souffrez. Donc, je crois qu'ils ont besoin effectivement du soutien, que l'État leur vienne effectivement en aide. Parce que quand vous suivez un peu à top aujourd'hui, les populations que nous sommes, bon, à moins que vous êtes journaliste, vous pouvez faire une distinction entre Radio Lomé et à top. Parce que quand vous suivez un peu Radio Lomé, souvent on dit non, le correspondant de tel ATOP pour Radio Lomé. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un complément d'objet direct ou indirect de l'ATOP vers Radio Lomé. Donc ils sont en train de faire un travail louable. C'est vrai, je visite un peu souvent leur site. Et quand c'est un site quand même attrayant, vous sentez que quelque chose se fait au niveau effectivement de cette agence. Monsieur le directeur, souffrez que on puisse vraiment vous aider à demander de l'appui au niveau de l'État, de vous soutenir. Parce que ça, c'est on ne peut pas se cacher. Vous ne pouvez pas ramener une fille à la maison et demander à vos parents si c'est votre femme. Si ce n'est pas votre femme, vous n'allez pas l'amener. Donc, je crois que soyez courageux de dire que vous avez besoin de l'aide de l'État, que l'État vous appuie. Bon, et puis, bon, l'État va vous venir en aide. Mais si vous faites semblant d'être marié alors que vous n'êtes pas marié, ça c'est des soucis.
Monsieur le directeur, c'est pas si vous faites semblant d'être
marié. Non, merci beaucoup, cher ami. Mm-hmm. Je crois que je n'ai pas dit que tout va bien à l'agence Togolaise de presse. Hein. Ce que j'ai dit, c'est comme je viens de le dire, que Rome n'a pas été créé en un seul jour, n'a pas été construit en un seul jour. Alors, l'État met les moyens. Aujourd'hui, financer des projets plutôt sur le plan numérique, c'est pas forcément facile en fait. Et l'État a d'autres priorités. L'État est en train de quand même d'accompagner l'agence sur les presse. C'est vrai, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous avons forcément besoin d'un peu plus d'accompagnement pour que l'agence puisse être une agence de référence aujourd'hui. Mmh. C'est vrai. Merci quand même de nous dire d'être courageux. Nous le sommes, hein, nous sommes courageux. Et nous disons également que l'État est en train de faire des efforts.
D'accord. Oui, monsieur le directeur, votre mot de la fin pour terminer cet entretien.
Mot de la fin, j'ai deux mots. Mmh. D'abord, le premier, c'est d'inviter toute la population à venir voir ce que nous sommes en train de faire à l'agence Togolaise de presse le 5 mars. Les portes de l'agence Togolaise de presse sont plutôt ouvertes. Alors j'invite tout un chacun à venir donc visiter donc la top le 5 mars. Et également, j'invite également toute la population alors, d'avoir confiance à l'agence Togolaise de presse. Un travail est en train d'être fait. Ce que nous demandons, c'est qu'on puisse être accompagné pour que nous faisons donc de l'agence Togolaise de presse une agence de référence.
D'accord.
Sur le plan sous-régional, pourquoi pas africain.
D'accord.
Merci.
Monsieur Yebi Kokouvi Adeyemi, merci d'être passé alors dans cette émission. Vous êtes le directeur de l'ATOP, l'agence Togolaise de presse. Merci et bonne célébration à vous et joyeux anniversaire. Et monsieur Tankoukou Deka Ignace, merci aussi à vous. Vous êtes rédacteur en chef de l'ATOP. Merci d'être passé alors dans cette émission. Vous restez avec nous si vous le voulez bien, puisque nous allons continuer notre débat ici au Club de la Presse, comme cela se doit. Et Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés en studio, bonjour au directeur de ATOP et à l'aîné. Rédacteur en chef.
D'accord. Oui, c'est vrai, nous avons parlé de la presse. Faisons rapidement cette transition pour parler de la Aplusia avec son concours lancé tout récemment. Nous avons reçu même d'ailleurs les responsables alors de la Aplusia alors dans ce studio. Et c'est vrai, le verdict alors du concours a été donné. Vous avez suivi l'information avec nous le vendredi dernier. On est revenu quand même sur ce verdict où il y a certains confrères qui ont été disqualifiés pour ce concours. Et aujourd'hui, ceux qui occupaient, ou celui qui occupait même d'ailleurs la deuxième place reprend la première place. Et ceux qui étaient à la troisième place reprennent également alors la deuxième place. Alors, c'est vrai que ça a créé beaucoup de remous au sein de la presse. Alors, disiez, comment vous avez analysé cette affaire?
Non, au fond, il faut dire que moi, j'analyse cette affaire en me plaçant de deux côtés. D'abord, si je me place du côté du professionnel de médias, je me dis que ceux qui ont été déclarés vainqueurs dès le départ ont été les véritables méritants, c'est-à-dire que de par la production qu'ils ont faite, les efforts qu'ils ont fournis, le travail qu'ils ont fait, je pense que c'est un jury indépendant qui a dû juger et qui a dû les choisir, a choisi leur production parmi tant de productions. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup plus preuve de rigueur dans ce qu'ils avaient produit et ils ont été déclarés vainqueurs. Maintenant, il me semble que après la publication des résultats, il y a eu des contestations. Selon ce que Apulsi a dit, il y a eu des contestations d'abord de la part de certains journalistes qui estiment que, bon voilà, on a déclaré des gens qui ont été gagnants alors qu'ils n'avaient pas... Bon, pour moi, certaines contestations ont été sur des détails. Par exemple, on dit qu'un média récipitait et tout ça, et bon... Moi, j'aurais été journaliste participant à ce concours. Dans ces conditions-là, je ne ferai pas de recours. C'est-à-dire, je ne contesterai pas parce que je reconnais les qualités de mon confrère qui a gagné. Je reconnais que sur des détails, ça ne devrait pas venir de la presse, en fait. Moi, c'est ce que j'estime, que sur des détails, dire qu'un journaliste a dû formuler un recours parce qu'on a déclaré son confrère gagnant, son confrère d'un média qui le reconnaît mais gagnant, sur des détails de rien du tout.
Bon, mais est-ce que,
déjà, pour moi, c'est des détails.
Oui, pour la question de confraternité, est-ce que ça ne prend pas vraiment un coup?
Justement, c'est ce que je dis, que pour moi, sur dire qu'un journaliste a porté, a formulé un recours contre un autre journaliste qui a gagné, pour moi, c'est sur des détails. Moi, Didier Assogba, je ne l'aurais pas fait. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes perceptions des choses. Certains sont plutôt pointilleux sur certaines questions, donc ils ont jugé de le faire. Je les condamne pas, mais je dis juste que pour moi, c'est des détails. Moi, je l'aurais pas fait. Bon, maintenant, eux, ils ont choisi de le faire. Peut-être que ça leur permet de récupérer un prix, une deuxième position pour certains. Ça leur permet quand même de gagner quelques milliers de francs CFA. Bon, c'est leur choix, ils l'ont fait. Mais en interne, pour l'image de la presse, pour notre confraternité à nous, pour notre bien-être à nous, l'harmonie à nous, moi je ne l'aurais pas fait. Donc en même temps, je dis, je ne condamne pas ceux qui l'ont fait, parce que ça leur permet aujourd'hui d'avoir ce qu'ils ont eu. De l'autre côté, je pense que on a dit que l'OTR également formulait un recours sur le contenu d'un des articles jugés d'ailleurs très pertinent, gagnant le premier prix, notamment dans la presse écrite. L'OTR a formulé un recours sur le contenu qui n'était pas vrai, qui n'était pas réel, et sur le procédé que le confrère a dû utiliser, qui a été condamné et condamnable. Et donc, je pense que la Apulsia veut jouer dans la transparence à ce sujet-là. Donc, c'est à ce point-là, il faut comprendre cette sortie de Apulsia, de la Apulsia tant pour moi, qui veut jouer un peu sur la transparence, puisque nous parlons là d'une question de corruption. Donc, quand nous voulons lutter contre la corruption, il faut également faire dans la transparence. Je crois que c'est ce qui a été fait. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Mais voilà, c'est mes appréciations sur les deux fonds ou les deux raisons qui ont permis quand même de disqualifier un certain nombre, enfin, deux gagnants des prix. Oui. Voilà, donc c'est sur le fond, notamment le recours de l'OTR. Bon, voilà, nous savons, nous tous, ça fait mal à la presse que ça a été ce que ça a été. Donc, la Pulse a pris son courage de vouloir jouer dans la transparence et j'estime que la lutte contre la corruption, c'est aussi la lutte pour la transparence. D'accord. Et dans la transparence, d'accord, nous pouvons continuer à lutter, à mettre fin à la corruption.
Jacques, oui, la Pulse a joué justement dans la transparence, puisque c'est la lutte contre la corruption. Oui, mais au-delà de tout, est-ce que déjà ce fait, tel que cela s'est présenté, est-ce que ça ne porte pas un coup déjà à ce concours?
Vous savez, Pascal, moi je voudrais un peu accuser les membres du jury de ce concours. Il faut reconnaître que les membres du jury n'ont pas fait un travail professionnel. S'ils avaient fait un travail professionnel, c'est au niveau du dépôt des candidatures qu'on allait déceler que le confrère n'avait pas un récépissé pour sa télévision, mais le récépissé sur le journal papier. Ah, oui. Voilà. Et l'autre aspect, c'est au niveau de l'article du confrère qui a gagné le premier prix. C'est-à-dire, il faut prendre le temps de pouvoir encore analyser, vérifier avant de publier. Donc, on a publié tout à chaud, on a proclamé les résultats, et après maintenant, c'est les recours qui s'en suivent. Supposons que si les confrères avaient empoché l'argent, vous allez faire comment? Vous allez leur dire de ramener l'argent? Ce serait un peu compliqué. Vous voyez, donc je crois qu'il faudrait que les gens puissent mettre une fois encore de la rigueur, du sérieux dans le travail qu'ils sont en train de faire. La Pulse, c'est une grande institution qui lutte contre la corruption. Et si un petit concours comme ça, on accuse la Pulse par rapport à la rigueur, vous voyez quand même qu'il y a un problème. Et l'autre aspect, c'est que je serai à la place, par exemple, de la Pulse, je n'organise pas, par exemple, les concours. Parce que ils trouvent l'argent où pour primer les lauréats. Parce que nous savons que la Pulse a souvent, bon, il est dit que les gens vont remettre l'argent notamment à la Pulse quand ils sont accusés. Et bon, pour cet argent, on ne sait pas quelle est la traçabilité. Est-ce que l'argent est versé au trésor? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et si aujourd'hui la Pulse se met également à organiser des concours, vous voyez que quand même, il y a des choses encore à dire. Si on me parlait, par exemple, de l'OTR, je peux comprendre. Parce que l'OTR est là pour mobiliser les fonds. Et l'OTR peut disposer autant pour moi sur leur ligne budgétaire et peut-être une ligne où on peut parler, par exemple, de primer des concours et autres. Donc, je crois que c'est déjà l'expérience est mal partie. Donc, il faudrait une fois encore que la APUCHA puisse revoir ce système d'organiser les concours. Parce que, Pascal, ça fait mal. Et qu'on vous déclare publiquement qu'on a filmé et les images ont été montrés un peu partout dans le monde entier, les gens ont vu, et peut-être que ceux qui ont gagné les premiers prix, les créanciers ont commencé d'abord déjà à frapper à la porte de celui qui a gagné le premier prix, et aujourd'hui qu'on dise que le prix là ne tient plus, peut-être que le monsieur, il a commandé peut-être des tonnes de ciment, ou bien de... on ne sait pas. Mais on dit aujourd'hui...
Il faut avoir l'argent avant quand même de commander tout cela.
Oui, mais écoutez, du moment où c'est... Arthur a dit que vous avez gagné, Pascal, de toi à moi. Comment tu peux rêver encore qu'on dise qu'on a annulé ce concours? Donc je crois que il faut de la rigueur, il faut de la rigueur dans l'organisation de ce concours. Moi je demanderais plutôt à la APUCHA de sortir de ce lot, de laisser, parce que c'est l'auteur qui organisait les concours. Ils n'ont qu'à rester dans leur sensibilisation, c'est mieux pour leur image. Parce que ce qui s'est passé là, vraiment c'est mal parti pour la APUCHA par rapport au concours et les médias.
D'accord. Si tu permets, des gens qui nous écoutent, hein, qui viennent déjà... qui vient à la rescousse, en fait, pour expliquer. Il paraît que le concours organisé par la APUCHA entre justement dans ce... Jacques a lâché le mot de sensibilisation.
Tout à fait.
Donc, les écrits, les productions journalistiques servent justement de moyens de sensibilisation du grand public, justement dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, ils veulent juste, en lançant ce concours, s'associer les services des médias et des journalistes qui sont supposés plus crédibles pour pouvoir sensibiliser le public en général contre ce phénomène de la corruption. Et sur le sujet de financement du concours, il paraît que c'est la GIZ qui décaisse de l'argent justement sur cette ligne-là. D'accord. De financement, de sensibilisation. Donc, c'est la coopération allemande qui décaisse de l'argent pour financer ce concours-là et le volet de la sensibilisation.
Non, je serai à leur place, par exemple, Pascal. Oui. Je serai à la place de Artusia. Je signe, par exemple, un contrat avec Liberté. Je signe un contrat avec Togo Breaking News. Je signe un contrat avec, par exemple, la Canal FM pour passer des rubriques. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça peut atteindre plus un grand public que d'organiser un concours. Peut-être combien vont lire, par exemple, l'article incriminé. Combien? Mais alors que si c'est les rubriques que vous prenez au niveau des médias, vous payez et puis, bon, de temps en temps, vous passez, par exemple, ces genres de messages de sensibilisation, les gens seront plus accrus à écouter et à recevoir quelque chose que d'organiser, par exemple, un concours, un article où les gens ne vont pas lire. Si je vous dis, entre nous, Pascal, moi, c'est parce que, entre-temps, il y a un problème, que j'ai su que un confrère a publié un article et puis ça a créé des problèmes. Personne ne saurait. S'il n'y avait pas, par exemple, ce recours ou bien ce problème, les gens ne sauront pas. Alors que si c'est des émissions, ils prennent par exemple des plages au niveau des médias pour ce genre de sensibilisation. Moi, je crois que ça pourrait mieux marcher pour eux.
D'accord. Oui, Gosson, est-ce que vous avez aussi l'impression que l'expérience de ce concours de la Aplicia, est mal partie?
Je ne vais pas utiliser ce terme-là. Personnellement, je me dis, Jacques a déjà pris une partie de mes remarques en compte. Avec cette expérience, je me demande si concours il doit y en avoir encore. Est-ce que j'aurai le courage d'y participer? En ce sens que, dans ma tête, le jour où on déclarait les gens, les lauréats, ils devaient repartir avec les chèques. Ça veut dire que dans au plus 24 heures, ils doivent être en mesure de toucher leur chèque. Ce faisant, quel test qu'on mettrait avant de déceler je ne sais quoi plus tard. Mais je reviens à l'idée même du concours. Je ne suis pas très fan. C'est comme à l'instar de l'institution de l'ARCOP, les marchés publics. Une fois le sujet est sorti, moi j'ai dit je suis contre. Parce que là, quand on dit on organise un concours, tu verras des médias qui n'ont jamais fait d'article ou de recherche ou d'investigation sur la corruption ou dénoncer un fait de corruption, mais qui vont peut-être remporter ce concours-là. Alors qu'à côté, il y en a qui font de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille. Pour dire quoi, en fait? On serait là, la APC allait rassembler des journalistes pour une rencontre et, à la grande surprise de tout le monde, on va dire tel Togo Breaking News, pour ses parutions sur la corruption, aura tel prix. Ce ne sera pas un concours à partir duquel on dira attention, prêt, partez. Non. Pendant qu'on travaille au jour le jour, on devait se dire que nos parutions peuvent donner quelque chose plus tard. Si moi j'ai eu la chance de connaître certains pays d'Afrique, ce n'est pas par concours, Pascal. Chaque fois que tu écris, tu t'appliques. Et tu es là un jour et ton téléphone sonne. C'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est Reuters Foundation. On t'a retenu pour participer à tel atelier ou à telle formation.
Parce que vos articles ont entre-temps eu vraiment de l'impact.
Tout à fait. Quand on prend le phénomène de la corruption au service de la nationalité, bref, au tribunal de Lomé en général, pourquoi est-ce que on a mis ces mesures-là où les motos, les voitures personnelles ne rentrent plus au tribunal. Parce qu'on a écrit contre les démarcheurs. Je l'avais fait avec Caroline Chauvet de Jeune Afrique. Le ministre a pris ça en compte. Et voilà les mesures qui sont prises. Mais qu'on dise que le ministère de la Justice veut organiser un concours sur la lutte contre la corruption, Gosson n'y participera pas.
D'accord.
Mais s'il faut revisiter les archives, je crois que Liberté doit figurer en bonne position. Quand on veut primer ceux-là qui font de l'effort pour bouter hors du pays, la corruption.
D'accord, on va quitter le sujet. On s'intéresse maintenant à un autre sujet. Il y a le journal Mega Info qui nous informe que, déjà parlant de l'intelligence artificielle africaine, Lomé accueille aujourd'hui la célébration de la première journée. Oui, j'en parlais même d'ailleurs dans mes mots introductifs. Aujourd'hui, c'est vrai, entre-temps, il y a eu même d'ailleurs le sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Et on a vu également le tollé qui a été fait tout autour alors de ce sommet. Ça veut dire qu'au-delà de tout, l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur dans notre société.
Oui, beaucoup plus d'ampleur. Ça commence par intégrer un certain nombre de comportements et de services et un certain nombre de secteurs ne peuvent plus aujourd'hui se passer de l'intelligence artificielle. Notre secteur notamment, le secteur de l'informatique, beaucoup de secteurs aujourd'hui ne peuvent plus se passer de l'intelligence artificielle. Au début, ça faisait peur, mais aujourd'hui, on se rend compte que on devrait naturellement associer cette technologie-là pour justement essayer de faire évoluer un certain nombre de techniques de production dans la société. Et donc aujourd'hui, la question de l'intelligence artificielle, la question de son importance ne se pose plus. Tout le monde sait que c'est important. Tout le monde sait que c'est un outil de plus qu'on doit utiliser pour être beaucoup plus productif. Donc si en Afrique, on arrive à avoir une journée qu'on veut célébrer, une journée de l'intelligence artificielle en Afrique, n'est-ce pas? Peut-être que j'ai pas la bonne terminologie, mais si c'est ça, je pense que c'est une bonne chose. Il faut encourager pour ses débuts, mais au-delà, il faut justement que l'organisation de ces journées-là, budgétivement autant pour moi, ne doivent pas, l'organisation de ces journées budgétivores ne doit pas, cette organisation-là, occulter les défis auxquels nous sommes exposés en Afrique. Nous voulons faire de l'intelligence artificielle, nous voulons utiliser l'intelligence artificielle pour booster notre développement. N'oublions pas, Jacques parlait tout à l'heure que nous n'avons pas encore d'eau, nous n'avons pas encore d'électricité, nous n'avons pas encore de connexion Internet et on ne peut pas faire aujourd'hui de l'intelligence artificielle sans électricité, sans connexion Internet, ce sera que du leurre. Et nous avons encore des taux de taxation encore plus élevés sur des outils informatiques. Un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés encore en Afrique. Donc si nous voulons aller sur ce terrain-là, nous devons en interne revoir nos politiques de développement pour que justement cette question de l'intelligence artificielle, si on en parle, ne s'arrête pas seulement à Lomé chez nous ici, mais que à Dapaon, à Naki Est, chez moi à Couvé et ailleurs, chez Godson là-bas dans le Cloto, qu'on puisse également parler véritablement de l'intelligence artificielle, de ses avantages, de tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans nos sociétés et surtout dans le développement, l'éducation et bien d'autres secteurs aujourd'hui. Donc il faut justement qu'il y ait des prédispositions, il y ait des outils, enfin je veux dire des prédispositions, notamment l'électricité, la connexion Internet, pour notamment permettre à ce que l'intelligence artificielle se développe chez nous et que toutes les possibilités qu'offre aujourd'hui cette technologie-là, nous puissions l'utiliser pour développer notre secteur éducatif, que le secteur de la communication, des médias puisse en profiter, bien d'autres secteurs. On parle de la médecine, de la télémédecine, la médecine aujourd'hui avec l'IA et tout ça. Toutes les possibilités d'avancement, de développement qu'offre aujourd'hui cette technologie-là, qu'on puisse avoir les moyens et les prédispositions, les préalables nécessaires pour le développement de l'IA chez nous.
Jacques, c'est vrai, l'intelligence artificielle aujourd'hui présente beaucoup d'avantages, mais au-delà de tout, c'est des défis aussi à relever.
De grands défis, de très grands défis, Pascal. Vous savez, le vrai problème, quand on parle de l'intelligence artificielle, ça se résume que seulement à ceux qui maîtrisent souvent l'outil informatique. Quand vous voyez un peu ce qui se passe, quand vous allez à ce genre de rencontres, de conférences, on vous expose souvent des robots qui sont là, qui n'ont pas besoin de l'assistance humaine. Et bon, on vous dit bon, que demain, ces robots-là vont remplacer l'être humain que nous sommes. Je ne pense pas que ça sera même possible. Il y a dans certains pays, même aujourd'hui, vous voyez des véhicules où vous ne trouvez pas de chauffeur et autres. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, c'est vrai que c'est un outil qui révolutionne aujourd'hui le monde quand on parle aujourd'hui de l'utilisation des technologies. J'ai vu un peu cette technologie au Rwanda où une invention, vous allez voir aujourd'hui, quand on veut livrer par exemple un médicament de Lomé par exemple à Saint-Cancé, on n'a pas besoin, peut-être qu'on puisse le mettre dans un cargo pour aller livrer par exemple ce médicament. Mais aujourd'hui, par ces méthodes simples, à l'instant T, Dapon a besoin peut-être de 10 poches de sang, à l'instant T, on vous livre ces 10 poches de sang. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, c'est une technologie qui révolutionne quand même le monde en servant à l'instant T les besoins humains. Donc, je crois que si c'est dans ce sens qu'il faut développer cette intelligence pour aider, pour assister effectivement les hommes que nous sommes, je crois que ça serait une très bonne chose. Mais à l'allure où vont les choses, la dépravation que nous voyons au niveau de cette intelligence artificielle, c'est là qui va créer un peu de soucis à l'être humain que nous sommes. Parce que nous avons vu aujourd'hui que cette technologie tend à remplacer même la procréation aujourd'hui, c'est-à-dire entre l'accouplement d'un homme et une femme. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, vous vous posez des questions. Il y a effectivement le côté positif de la chose, mais également le côté négatif également de la chose. Donc je crois que aujourd'hui, l'Afrique, c'est vrai, l'Afrique avec, vous voyez les routes que nous n'avons pas, et on n'a pas également le système de distribution des produits routes, mais avec ce système, avec l'intelligence artificielle, si on peut développer ça, ça peut quand même vraiment nous aider. Vous prenez par exemple les localités de Badou, vous prenez Diarpanga et autres, il y a des produits que nous avons là-bas qu'on peut livrer par exemple à nos populations qui sont ici, mais comment les faire? Mais si on essaie de développer ce genre de technologie, ça peut quand même booster notre économie, booster aussi la culture de nos populations autres.
D'accord. Dawson, c'est vrai, Didier, Jacques ont cité un certain nombre alors de défis aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés avec cette question d'intelligence artificielle, mais est-ce que vous avez l'impression que nous sommes prêts pour accueillir vraiment cette nouvelle technologie?
Nous qui?
Je parle du Togo, de l'Afrique en général.
Cessons de rêver. Je pèse bien mes mots. Pascal, dis-moi. Ce truc, excusez-moi si je l'appelle truc, c'est initié, réservé aux pays bien développés. À la rigueur, aux pays émergents. Le Togo est un PPTE, pays pauvre très endetté. En temps, nous avions rêvé de l'émergence. À un certain moment, c'était la rhétorique, le vision Togo 2030, Togo émergent. Mais avec le temps, le projet a fait chute. On a vite compris que ce n'est pas demain l'émergence. Le temps pour nous d'arriver à l'émergence, ensuite d'aller vers le vrai développement, ben, il y a trop de préalables, Pascal. Qu'est-ce que le peu que nous avons sur la table à régler, on n'arrive pas à le régler. Et on veut sauter sur l'intelligence artificielle, Pascal. Et jusque-là, je suis que lors de cette rencontre, on ne parlera que de bon côté de la chose. Mais Pascal, soyons sérieux à un certain moment. Si on veut détruire le monde, notre monde aujourd'hui là, avec l'intelligence artificielle, c'est très vite fait. En ce sens que les dangers qui sont sous cette affaire, on évite d'en parler parce que les connaisseurs savent que si on doit tout dire, les gens en auront peur. J'ai fait un peu l'informatique. J'ai le BTS en informatique réseau. Mais ce n'est pas pour autant que je vais courir à embrasser cette affaire-là. Il y a trop de préalables. Les amis ont donné plein d'exemples. Quelle est la couverture en électricité, en Internet au Togo? Nous avons trop de priorités. Il y a d'autres urgences qui nous attendent d'abord. Quand on aura fini là, il y en aura d'autres. Mais l'intelligence artificielle,
Gosson lui dit encore, ce n'est pas pour nous.
D'accord. Alors, Gosson, je reste avec, avec vous hein, pour ce titre que vous, vous évoquez, bien sûr, à la une, concernant le nouvel ambassadeur, bien sûr, alors du Togo en France. Vous écrivez Urukura Agadazi, une nomination controversée qui rappelle celle de l'ex-chef milicien Sogoyou Kegewe, bombardé ambassadeur en Allemagne en 1996. Alors, oui. Et finalement, déjà avec son poste alors d'ambassadeur, il y a déjà des soucis, c'est ça?
Bon, quand tu relis la phrase que tu viens de nous lire là, est-ce qu'il y a quelque part où ça cloche? Est-ce le nom de Kegewe que tu ne comprends pas ou alors ex-milicien que tu maîtrises mal? La phrase, c'est du français, hein.
Non, mais justement, j'ai bien compris.
Concis et précis.
Oui, mais je vous l'avais écrit par contre si de l'actualité.
Oui, et oui. S'il y a une erreur ou alors une boude, la hague va nous sauter dessus.
Non, mais ça, c'est clair.
Mais c'est exprès. On a fait la... C'est clair. Parce que il y a des rapports d'institutions qui ont cité l'ancien ministre comme ayant pris part dans certaines situations peu enviables lors de certains événements. Ce n'est pas Gosson qui l'invente. C'est documenté. Or, quand on remonte le temps, c'est un peu la même situation que le monsieur dont on a donné le nom. Je crains même de reprendre le nom. Tu l'as dit, c'est suffisant. Donc, on a essayé de faire un parallèle. Cette situation ressemble à n'en point douter à celle qui a prévalu en 1996 quand il a été nommé ambassadeur en Allemagne par feu notre ancien président.
Oui, mais disait, c'est vrai qu'entre-temps, tout récemment, dans une sortie, le nouvel ambassadeur, bien sûr, Urukura Agadazi, a démenti hein, toutes ces choses ou tout ce qui a été dit à son encontre. Et, est-ce que ça a été peut-être alors une sortie mal placée?
Non, est-ce qu'il me revient de dire que c'est une sortie mal placée moi, à la place du colonel, je ne réagirai pas. Je ne réagirai pas, je ne parlerai pas. J'ai un ami qui m'a conseillé dans une situation il y a quelques jours. Il m'a sorti une phrase élevée que je ne comprenais pas, mais je pense que ça vaut pour des situations comme ça. Il dit que ça reste noir comme ça. Si ça reste noir, tout le monde va écarquiller les yeux. Donc, on comprendra qui pourra. Donc, j'aurais été à la place du ministre et colonel. J'aurais dû laisser la situation noire comme ça. Comme ça, chacun va écarquiller ses yeux pour voir ce qu'il cherche à voir dedans. Parce que qu'il sorte pour justifier, pour essayer de s'expliquer et tout, il va juste donner du crédit encore à ceux qui le contestent. Mais quelqu'un l'a nommé. Et derrière quelqu'un, c'est quelqu'un qui l'a nommé. Donc, si celui qui l'a nommé, si des explications devaient y avoir, il revenait à celui qui l'a nommé de donner les explications. Mais si lui-même, il veut essayer d'expliquer sa nomination, expliquer aux gens qui ne sont pas pour lui, mais si, le ministre va comprendre, hein, peut-être qu'il est aimé. Il est plutôt aimé. Les gens ont voulu le revoir, ils l'ont revu. Et donc, il a été nommé, il n'a qu'à s'estimer heureux, il va faire ce qu'il a à faire en bon militaire, il va en mission en France, il va finir sa mission, il rendra compte. Qu'il se justifie ou qu'il se justifie pas, on va pas réécrire l'histoire, on va pas retourner au passé pour corriger un certain nombre de choses. Des choses ont été faites, peut-être en bien avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Ces choses ont été faites quand même, elles ont été faites dans le passé, c'est fini. Nul n'a le pouvoir aujourd'hui de retourner en arrière pour corriger quoi que ce soit. Aujourd'hui, il est ambassadeur du Togo en France. Certains vont aimer, sa famille va apprécier. Ils ont peut-être déjà fini de faire la fête, mais des gens ne vont pas aimer. Certains Togolais ne vont pas aimer parce que son nom, parce que son parcours, parce qu'il est militaire, parce qu'il a dû participer à certaines choses. On a entendu son nom dans certaines choses. Donc, il n'avait pas besoin, ma foi, de sortir, de s'expliquer. Ceux qui lui avaient conseillé cela, ma foi, l'ont induit en erreur.
D'accord. Jacques, au moins quand le colonel ou l'ambassadeur sort pour se justifier, est-ce que ce n'est pas pour clarifier un certain nombre
de... Un diplomate ne parle pas
de son passé.
Pascal, vous savez, je serai à la place de l'ambassadeur Ouro Agadazi, oui. Que, comme Didier l'a dit, je n'allais pas réagir. Et puis, vous savez, je me pose souvent la question de savoir, les collaborateurs du président Faure Gnassingbé, est-ce que ces collaborateurs le connaissent vraiment à fond? Mais regardez quelqu'un avec qui vous travaillez des années, est-ce que vous avez vu une fois M. Faure Gnassingbé réagir devant une situation? Il se tait. On vous a nommé ambassadeur. Les gens sortent des casseroles. Mais il n'y a pas de problème. Si les casseroles font du bruit, qu'est-ce qu'on fait, Pascal? On se tait. On laisse les casseroles traîner. À un moment donné, les casseroles vont s'arrêter. Mais si on tape sur une casserole, tu veux sortir pour réagir, l'autre côté va taper encore une autre casserole. Et finalement, ça va devenir un brouhaha. Et finalement, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que du moment où les gens connaissent, par exemple, les dossiers, ils vont commencer par sortir les dossiers. S'ils sortent un dossier, c'est pour voir si ta réaction. Mais si tu réagis, ils vont sortir encore d'autres dossiers. C'est ce qui se passe. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans le cas de M. Agadazi. Comme Didier l'a dit, je serai vraiment à sa place. Je ne vais pas réagir. Feu Gnassingbé Yadema disait quoi dans ce pays? Il dit que si Togolais, tu fais quelque chose et le Togolais se tait, il faut savoir que vraiment, tu as un problème. Mais si le Togolais fait du bruit, continue. Mais donc je crois que c'est des choses que...
Est-ce que ça veut dire qu'il connaît bien le Togolais?
Non, mais il faut... Quand c'est comme ça, à sa place, je vais me taire. Comme Didier l'a dit, ceux qui l'ont induit, parce que c'est pour une première fois qu'on a appris que Agadazi, Didier, je ne sais pas si peut-être Garçon, vous étiez au courant, que M. Agadazi a une cellule de communication. Moi, c'est ma première fois de découvrir ça. M. Agadazi a fait l'ANSAT, ministère de l'Agriculture. Je n'ai jamais vu une cellule de communication à son cabinet, ni à l'ANSAT. Mais subitement, il n'a même pas encore pris fonction. Il a déjà une cellule de communication. Moi, ce qui m'a fait mal dans tout ça, c'est de s'en prendre, par exemple, à une radio. Parce que tu seras installé là-bas. Je parle de RFI. Il sera installé en France. Et s'il ne sait pas faire, vous connaissez les gens là, ils vont commencer par tirer sa langue sortie des dossiers. Finalement, il sera difficile. Donc je crois qu'à un moment donné, si vous êtes responsable, Pascal, acceptez que les gens disent des choses sur vous. Même une femme aujourd'hui, Pascal, sa grossesse coule aujourd'hui là. Demain, les gens vont parler, vont dire, ah, hier là, sa grossesse a coulé. Mais si tu parles, tu auras des problèmes. Donc il faut que les gens apprennent quand vous êtes responsable. Devant des situations, il faut toujours prendre le temps de se calmer, de se taire et laisser les choses. Une fois encore, moi j'invite M. Agadazi de se taire. Mais s'il veut continuer toujours pas à parler, bon, vous voyez, Liberté a encore sorti quelque chose cette semaine. S'il n'avait pas dit ça, je ne pense pas que Liberté allait sortir un dossier celui aujourd'hui. Vous voyez, donc je crois qu'à un moment donné, il faut prendre le recul, mieux réfléchir et se dire, les casseroles que les gens sortent, c'est vrai. Il est important qu'on change. Si c'est faux, laissez l'histoire même va faire le deuil.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Ils peuvent nous appeler sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, on fait un clin d'œil à nos annonceurs. 13.5 Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Pélé. Comment vous allez?
Très bien.
D'accord, allez-y.
Bon, ce qui me concerne tout à l'heure, c'est la Prussia avec... C'est l'OTM ou c'est l'OTR?
Non, l'OTR.
L'OTR.
Oui.
C'est-à-dire Office de...
Oui, l'Office togolais des recettes.
Ok. Bon, je pense que cette décision de donner le prix à quelqu'un et le rétrograder, c'est-à-dire et prendre le prix. La faute est à qui maintenant? À celui qui a octroyé le prix ou bien celui qui a reçu le prix? Maintenant, qu'il faut, si celui qui a reçu le prix, et s'il a déjà utilisé ce prix-là, c'est-à-dire qu'il a donné plus d'un million et qu'il a utilisé, maintenant, est-ce qu'il va rembourser? Et s'il va rembourser, qui va rembourser? Tout ça, là, je pense que c'est au niveau...
Ah, mais Pélé nous a quittés. Nous allons le prier alors de recomposer le 90 86 35 35 91 36 63 75. Pour rentrer en ligne, c'est sur ces deux numéros, bien sûr, que vous pouvez nous appeler aussi, nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est bien sûr sur ces numéros que vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Monsieur Gadeau.
Oui, monsieur Gadeau, j'espère que vous allez bien.
Oui, ça va très bien, le plateau, ça va?
Ça va.
Bon, est-ce que la personne a reçu le prix, on lui a donné tout, ou bien, bon, on a noté ça comme ça?
Vous voulez parler de la première personne qui a reçu le prix?
Oui,
enfin,
si.
Non, ouais. Non. Non, le coffret n'a pas
dommage,
reçu le prix.
Hein. Oui. Si moi, je ne vais plus retourner ça, c'est très dommage pour lui. Mais néanmoins, il n'a qu'à porter plainte, parce que la tour ne vient pas de lui, il n'a qu'à porter plainte. Merci, bonjour.
Non, mais je pense que le contenu, on n'en a pas parlé ici, bien sûr, puisqu'il y a un contenu pour l'histoire. Et ouais. Donc, il y a justement la Plusia qui a fait un développement même d'ailleurs sur ce contenu. Et, allô?
Bon, vous voyez, allô?
Oui, allô?
Oui, c'est ça, vous voyez comment faire les choses très très mal dans notre pays? C'est pas possible. Je vous donne un exemple. Vous savez, on a donné de l'argent, aide au Niger. Maintenant, Trump a annulé l'argent. Alors que le Mali n'a rien dit ça. Et le Mali demande, mais quand est-ce que vous avez commencé à donner l'argent? C'est à qui a pris l'argent? Vous voyez ce qui se passe maintenant? C'est pas possible, il faut bien faire les choses. On n'a pas de l'argent dans un pays et le gouvernement n'a rien dit ça. C'est avec ça qu'on on alimente les terroristes. Vous voyez des trucs comme ça? Merci, bonjour. L'Afrique, c'est une poubelle, vraiment.
Merci, M. Gadeau, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez, Evangeliste Senghor?
Oh, je vais bien, et vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
Ah, je salue mon frère Jacques Dapouti qui est au plateau là-bas et tous les autres, soit béni. Hein.
D'accord, allez-y.
Bon, vous venez de... Je ne sais pas si l'invité est sur le plateau, Platon.
Oh oui, mais ils sont déjà partis. Oui, c'est bien ça, c'est 50 ans, mais ils sont déjà partis.
Ça dit qu'une institution qui paie déjà 50 ans, c'est pas petit à petit. Un demi-siècle. Bon, je voudrais savoir, durant les 50 ans, vous, les journalistes au plateau, vous leur avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir marquer, hein, durant les, un demi-siècle, pour marquer la presse togolaise. Parce que si j'ai écouté vraiment l'invité, il disait qu'ils envoient la presse à des organes.
La dépêche.
Parce qu'elle oublie, c'est pas ça.
Mais la dépêche, ils envoient la dépêche souvent à des organes.
Voilà, la top déjà 50 ans. Où aujourd'hui la presse est à genoux au Togo durant les 50 ans. Bon, aujourd'hui, la presse qui est la 4e République du Togo, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Aujourd'hui, l'aide de la presse est toujours en bas. Au moment où au Sénégal, ils sont déjà 1 milliard hein, qui donnent à la presse sénégalaise. Mais par contre, au Togo, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je m'arrête ici. Soyez bénis.
Merci, Evangeliste Senghor, pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez, Johannes?
Ça va bien.
D'accord, allez-y.
Bonjour au plateau.
Oui, bonjour.
Je vais commencer par l'intelligence artificielle. Bon, au-delà de ce que vous avez donné comme exemple, il faut aussi noter que l'intelligence artificielle, en fait... Allô?
Oui, oui, allez-y, Johannes, je vous écoute.
Il faut noter que l'intelligence artificielle ne se limite pas forcément à la robotique et autres. Il y a un côté qu'on oublie souvent, ce sont les... c'est-à-dire que c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on parle aujourd'hui du chat GPT. Et figurez-vous qu'avec ce chat GPT-là, même votre travail là-bas est menacé, le travail des journalistes est menacé. Le travail des artistes, chanteurs, tous ceux qui font des choses créatives, leurs travaux est menacé. Parce que il suffit d'aller aujourd'hui sur ChatGPT, tu demandes un article, quand tu rédiges un article concernant quel sujet, l'intelligence artificielle te sort ça clair, net, sans faute et avec une bonne rédaction. Donc il y a tous ces exemples-là. Et je veux profiter de ce débat sur l'intelligence artificielle pour remarquer que depuis quelques jours, même Canal FM et plusieurs autres radios, on commence à entendre vos jingles qui viennent tout droit de l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui, pour moi, ça ne donne pas du goût réellement à ces jingles-là. On était habitué aux jingles qui étaient locales encore. Bon, vous comprenez ce que je veux dire?
Non, je comprends, Johannes.
Voilà, donc, le deuxième sujet, vous savez, même si c'est Forn Yansingbe qui a nommé le colonel, je ne vois pas comment on peut donner le silence de Forn Yansingbe dans ce pays comme exemple à suivre par un autre. Le silence de notre président Forn Yansingbe dans ce pays, moi je dis c'est une plaie pour nous. Donc même si c'est lui qui a nommé l'ambassadeur, ce n'est pas un exemple qu'on va donner pour que quelqu'un suive ça. Merci.
D'accord, merci Johannes pour votre intervention. Aplusia concours, la sensibilisation de Aplusia doit passer par la révélation des voleurs de la République et leur assignation en justice, la saisie alors de leurs biens et la prison. C'est la meilleure sensibilisation pour une institution de lutte contre la corruption. C'est ce qu'on voit dans le monde et les pays limitrophes. Merci, c'est Maglibé qui nous écoute depuis la Belgique. Allô?
Allô, allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
C'est Patrick.
Patrick, bon, bonjour tout le monde.
J'espère que vous allez bien.
Non, ça va bien, pas ça, grâce.
D'accord, allez-y.
L'IA, je voulais parler de l'IA, l'intelligence artificielle.
Oui.
Vraiment, je pense qu'il est temps aussi que nous vivions avec ça. Parce que, à l'heure actuelle, on ne peut rien faire. Ça, l'intelligence artificielle. Mais ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que nous sommes suffisamment renseignés? Est-ce que nous sommes suffisamment prêts à recevoir cette intelligence artificielle? Écoutez, nos data centers qui existent présentement sont équipés. Est-ce que les cellules de communication des institutions de la République sont extrêmement équipées pour pallier à d'éventuelles attaques? C'est ça quoi? Quelqu'un vient de le dire, hein? L'intelligence artificielle peut quand même donner une déclaration tout à l'heure, que voilà, alors que c'est une fausse information. Si nous ne sommes pas renseignés sur ça et nous on se met à exécuter cette information, vous voyez ce que ça peut amener? L'intelligence artificielle peut donner des instructions à l'armée, alors que ce n'est pas la hiérarchie qui donne cette information. Imaginez ce qui pourrait arriver. Donc, vivement, il va falloir que nous menions notre vie actuellement avec cet outil-là, qui, quoi qu'on veut, on doit vivre avec elle, parce que c'est, le monde évolue. Et on doit faire avec.
D'accord, merci beaucoup Patrick. Bonjour au Togo. On aime trop du bling-bling. Cette histoire de l'intelligence artificielle n'est pas pour les pays africains comme le Togo. Nos problèmes ne se trouvent pas là-bas. Merci, c'est Ibrahim qui nous écrit. Bien sûr, auditeur. Allô?
Allô, bonjour mon grand frère.
Bonjour, comment vous allez?
Merci bien.
Votre nom c'est...
C'est Dodi Daravé.
Ah, Dodi, depuis Daravé. Dodi, je vous écoute.
Merci pour tout ce que vous faites pour la nation que vous êtes.
Merci à vous aussi.
Je remercie les invités aussi. Notre pasteur Gapti.
Oui, remercie. Oui, allez-y, Dodi.
Ah bon, vous allez voir. Notre président fort a pris la nation que vous êtes. Bon, on va dire que la nation colonelle. Tous les préfectures sont colonels. Et maintenant, nous sommes tombés sur les ambassades. Que Dieu nous sauve. Bonne émission.
Merci pour l'intervention. Dodi, 90, 86, 35, 35. 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô, bonjour. Bonjour, Kadal FM. J'ai un coup de gueule pour la Plussia pour avoir annulé le résultat du concours. Non, la Plussia n'a pas annulé les résultats du concours. Je pense que non, l'auditeur qui a écrit ne nous a pas bien suivi. Et l'auditeur qui écrit, pourquoi ils sont de leur... Ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas bien suivi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sûr que c'est des numéros que vous pouvez réagir au club de la presse sur les sujets débattus ici, bien sûr. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Et les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment ça va?
Ça va, chez vous?
Je vais à merveille.
C'est monsieur Kofi?
Non, c'est l'éternel des armées, Habib. Merci, Habib.
Oui, monsieur Habib.
Comment ça va?
Ça va, et chez vous?
Ça va bien.
Oui, allez-y.
On est obligé de faire avec. L'intelligence artificielle doit rentrer en jeu. Là, dans le code de la route, il nous faut des caméras de surveillance. Hein, et tout le monde serait sur compte. Magnétique, et puis on va prélever rapidement les verbalisations routières. Est-ce que c'est dit? C'est une idée que moi je vous ai apportée.
D'accord. Merci beaucoup, oui. Habib, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur, déjà, qui se signale. Allô? Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Décidément, allô. Allô. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Et allô. Allô. D'accord, je pense qu'il est parti. On va, chers confrères, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission de ce jour. Didier, vous avez écouté les uns les autres se prononcer à sur l'actualité, j'allais dire. Et c'est vrai, c'est le principe de l'émission. Soit si vous avez un mot à placer par rapport à ces réactions, et aussi si vous avez peut-être un autre sujet à évoquer, ce serait également le bienvenu.
Et j'ai écouté un auditeur dire que avec l'IA notre métier est menacé. Bah, je n'y crois pas, moi, je n'y crois pas. On avait dit ici qu'avec l'internet, ça n'est fini pour les médias et le journalisme. Ça n'a pas été le cas. Avec les réseaux sociaux, il fut un temps Facebook était dans toute sa splendeur. Et après, c'est WhatsApp qui a suivi. Mais le journalisme n'était pas mort, le journalisme a survécu. Et je crois, moi, ma foi, l'IA, ça peut constituer une menace pour ceux qui refusent de s'adapter. Mais l'IA, aujourd'hui, est plutôt un outil, un allié pour notre métier, pour que, justement, il y ait de l'automatisme au niveau d'un certain nombre de services. Je crois que mon ami Gosson va plutôt souffrir à utiliser ses yeux de pépé pour corriger un papier du premier mot jusqu'au dernier, mais pour justement s'attacher des services des outils comme l'IA par exemple, pour justement rapidement corriger les papiers avant de les proposer à la diffusion. Et ça permet plutôt d'aller un peu plus vite, ma foi. Si il dit aujourd'hui qu'il va demander un article à l'IA, un vrai journaliste comprendra que tu as demandé l'article à l'IA. Donc, si tu vas générer quelque chose, tu ne pourras pas... voilà, si tu génères, on saura en fait. De toute façon, on saura. On a des outils aujourd'hui pour savoir. Donc, c'est pas une menace, mais c'est plutôt une aubaine pour pouvoir... améliorer ce que nous faisons, et je crois que l'adaptation permettra justement à ce que nous puissions proposer du mieux au public, éviter justement qu'il y ait des coquilles, un certain nombre de choses dans ce que nous proposons, et c'est plutôt ça, nous prenons ça comme plutôt une aubaine pour améliorer, plutôt pas comme quelque chose qui nous fait peur, enfin de toute façon aujourd'hui, il n'y a pas un outil qui viendra remplacer ce que l'homme fera à faire à 100% remplacer l'homme. Il n'y en aura pas.
D'accord.
On peut remplacer quelques étapes, mais pas tout, toute la production, ça ne peut pas être remplacé.
L'homme a toujours sa place.
Parce que l'IA n'ira pas en reportage de toute façon.
Non, mais ça c'est clair. Jacques ?
Oui, justement, je crois que Pascal, ça il faut le reconnaître. L'intelligence artificielle ne peut jamais remplacer l'ordre que Dieu a établi. Donc, l'homme est toujours au centre de l'intérêt de Dieu. Donc, tout ce qui se passe, il faut reconnaître que c'est des choses qui vont passer, hein, des choses qui vont passer, qui ne peuvent jamais remplacer l'homme. Donc, je crois que il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Quand l'intelligence artificielle apparaît, on a dit que non, ça va remplacer, on n'aura plus de boulot, on va chasser les gens, c'est les robots qui vont remplacer les hommes. C'est faux, Pascal. Je crois que on peut l'utiliser pour faire des choses, mais l'homme restera toujours dans l'intérêt de comme créature de Dieu. Et l'homme sera toujours au centre de l'intérêt, effectivement, de Dieu.
D'accord. Gosson ?
Oui. Je devrais me faire le devoir, à la suite de ATOP, d'annoncer. Nous, ce n'est pas dans le futur, mais ça s'est produit hier. Liberté a fêté 20 ans.
Ah, félicitations. Ah bon.
2 mars 2005, 2 mars 2025.
Là, c'est, je pense, au jubilé de porcelaine, non ?
Peu importe le nom qu'on veut lui donner. Mais ce n'est même pas dans la sobriété, parce que nous faisons face à une pile de problèmes, de difficultés. Et donc, l'initiateur du projet ne savait même pas que 20 ans plus tard, ce jour-là serait encore debout. Or, heureusement, il est encore bien debout. Mais les arriérés de salaire, les dettes, plein de choses. En temps normal, heureusement que nous ne sommes pas comme nos amis de la TOP qui ont du mal à dire leurs mots. À liberté, nous avons la liberté même de critiquer la direction. En toute transparence, du moment que c'est de la vérité, elle est ouverte pour recueillir, pour accepter. La preuve, on a sorti, produit un éditorial à propos. On invite les lecteurs à y jeter un coup d'œil. Et noter le journal.
D'accord. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à vous.
Merci.
Et Gosson, je lis cette réaction alors d'un confrère qui nous écoute à Cotonou. Dit bonjour, c'est confrère du 228. Merci pour l'exercice journalier du décryptage et d'analyse des sujets. La poussière, les avis des concernés sont diversifiés. Il faut essayer d'aller au fin fond alors pour véritablement comprendre les zones d'ombre qui s'y trouvent avant de se prononcer. Le fait de postuler à certains concours lancés dans des organisations nationales ou internationales ne date pas d'aujourd'hui et cela met la lumière sur certains potentiels des confrères et consoeurs. Ne restons pas dans la forme négative. Et parlant de l'IA, l'IA de nos jours est un peu comme l'arrivée progressive de la connexion Internet en Afrique. Si nous ne nous intéressons pas aujourd'hui, nous serons très surpris demain, surtout étant dans le monde médiatique. Ce n'est pas parce que vous ne vous intéressez pas qu'il faut décourager les autres à avoir cette connaissance. C'est Aristidos Abidjo qui nous écoute depuis Cotonou. Merci, cher confrère Didier Assogba. Merci d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne Togo Breaking News. Merci, Jacques Djakouti, consultant.
Merci, Pascal. Je voudrais sincèrement dire merci à nos compatriotes qui ont participé au Burkina Faso au FESBACO. Je voudrais sincèrement inviter le ministre de la Culture à aider effectivement ses compatriotes parce qu'ils ont de l'avenir.
D'accord.
J'ai suivi un peu les films projetés. Le Togolais, le film au niveau du Togo a de l'avenir.
Le Togolais a du génie.
Oui, justement.
D'accord. Donc. Merci beaucoup, Jacques. Vous êtes consultant média et également analyste politique. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à Gonson Ketomagnan, journaliste à Liberté, le journal Liberté, bien sûr. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés également, vous qui avez contribué à cette émission par vos vos réactions à travers notre numéro 90 45 78. C'est notre numéro WhatsApp. Merci d'avoir contribué justement à cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoucha était à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sicavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.